Bonne nuit sur France Inter.
Il est 2h, le flash Alexis Arad. Une centaine d'habitants de Diemeringen dans le Bas-Rhin évacués en début de nuit. Face à la montée des eaux, le département est en vigilance orange crue au même titre que la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Le pic de crue est attendu ce matin. Cette nuit, les passagers d'un TGV Francfort-Paris sont hébergés à Forbach. Des arbres sont tombés sur les caténaires. Ils ont dû attendre plus de 4 heures dans leur train. Les députés ont approuvé en commission le projet de loi créant une aide à mourir en France. Le projet de loi fin de vie dans son ensemble devra ensuite être approuvé dans l'hémicycle. Le texte va y arriver le 27 mai. Quelques centaines de personnes se sont réunies à Paris et à Rouen ce vendredi soir pour dénoncer l'antisémitisme après qu'un homme finalement abattu par la police a mis le feu dans la matinée à une synagogue de la ville normande. Même si la nuit a été plus calme en Nouvelle-Calédonie, des quartiers de Nouméa restent hors de contrôle selon les autorités. Lors d'une réunion à Paris, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a demandé de repousser la convocation du Congrès qui doit entériner le dégel du corps électoral pour laisser le temps à une mission de conciliation, d'apaiser la situation. L'armée russe continue d'avancer dans le nord-est de l'Ukraine, près de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Vladimir Poutine a justifié ce vendredi son offensive. Une réplique, dit-il, aux frappes ukrainiennes des derniers mois en territoire russe. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi avoir retrouvé et rapatrié les corps de 3 otages enlevés en octobre par le Hamas. Dans le même temps, des combats ont eu lieu dans le nord de la bande de Gaza. Les syndicats pénitentiaires appellent à la fin du mouvement de blocage des prisons. Ils ont approuvé les propositions formulées par le ministère de la Justice pour améliorer les conditions de sécurité des agents pénitentiaires. La mobilisation avait commencé après l'attaque d'un fourgon de transport et la mort de 2 agents mardi dans l'Eure. En Bretagne, plus de 150 chats et chiens ont été découverts dans un camion près de Saint-Malo. Les animaux affamés et enfermés dans des cages ont été placés auprès d'associations. La propriétaire du poids lourd, une Britannique d'une quarantaine d'années, a été interpellée. Elle est atteinte du syndrome de Noé, de recueillir toujours plus d'animaux sans pouvoir s'en occuper. Ce sont des riverains qui ont donné l'alerte après avoir entendu des cris d'animaux. Les Lyonnaises, sacrées championnes de France de football, les joueuses de l'OL ont battu le Paris Saint-Germain 2-1 en finale de la première édition de la nouvelle formule du championnat de première division. C'est leur troisième titre consécutif. Et eux ne sont pas champions, mais la joie est la même. Les joueurs du SCO d'Angers sont promus en Ligue 1 grâce à leur deuxième place du championnat de Ligue 2, validée au terme de la 38e journée. Saint-Étienne, troisième du championnat, jouera les barrages avec Rodez et le Paris FC. Et le plus ancien record de l'athlétisme français est tombé ce vendredi soir, celui du lancer de javelot. Il datait de 1989, détenu par Pascal Lefebvre avec un jet à 82,56 m, pulvérisé par le Haïtien Théo Raïterai Tupaya avec 86,11 m. Le jeune athlète de 24 ans se qualifie au passage pour les Jeux de Paris.
Merci de passer la nuit avec France Inter. Voici maintenant Zoom Zoom Zen.
La Deep Tech, c'est pas un style de nouvelle technologie. Récemment, genre. Ouais. Bah, ChatGPT. Bah ouais, maintenant c'est partout l'intelligence artificielle. Hein. On en a besoin tous les jours, même moi j'utilise pour les cours, pour faire des diaporamas, c'est partout. Non ?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, une heure pour décrypter notre époque à travers ces mots, ces expressions que vous entendez dans les médias sans forcément toujours les comprendre, comme par exemple le mot frima l'autre jour pour Manon. Et aujourd'hui, quand j'ai annoncé qu'on allait parler deep tech, j'ai vu justement le regard de cette fêtarde de Marianoche s'illuminer. Elle a certainement cru l'espace d'un instant que dans le cadre de l'opération « Travaillez moins pour gagner autant » lancée par Cyril Lacarrière en conférence de rédaction lundi et qui consiste à maintenir le niveau éditorial sans non plus trop se fouler parce que, je cite, « l'été arrive oui. », Manon a donc cru... C'est un beau projet éditorial.
Oui.
Manon a donc cru que Cyril avait délégué le choix du thème à Étienne Bertin, notre réalisateur, joker, également icône de la techno berlinoise, et qu'on allait se faire une heure sur l'acid tech, l'industrial tech, la minimal tech, qu'Étienne allait envoyer les watts en distribuant du poppers à tout le monde. Non.
Non.
La deep tech, ce n'est pas ça du tout. La deep tech, ça désigne tous ces projets portés par des entreprises ou des labos de recherche qui innovent en repoussant les frontières technologiques, en nous proposant ce qu'on appelle des innovations de rupture, c'est-à-dire de nature à révolutionner nos habitudes, à changer nos vies, du réchauffement climatique à la lutte contre le cancer, en passant par la réinvention de l'industrie. Alors que recouvre exactement ce terme de deep tech? Quelles sont ces technologies de rupture qui vont nous simplifier la vie? Étienne Bertin, n'est-il pas trop triste? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Arnaud Delatour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Cet après-midi, Arnaud, vous êtes le PDG et cofondateur de Hello Tomorrow, une entreprise qui, j'ai lu, regroupe 10 000 startups. Attendez Arnaud, vous voyez déjà ce que ça fait, 1 000 startups? Je suis sûr qu'il y en a vraiment 10 000?
Sûr et certain. Vraiment, 10 000 de, je crois.
Oh non, plus de 10 000! Vous êtes vraiment trop fort. Startup dont l'objectif est de travailler sur les technologies émergentes. Vous êtes donc l'invité idéal pour nous raconter les dernières prouesses de la deep tech. Juste le temps de vous présenter deux journalistes capables eux aussi de sacrées prouesses. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Mathieu.
Quentin, je ne veux pas spoiler parce que je sais que Cyril va en parler dans son doux assor, mais vous avez vous-même un très beau projet deep tech que vous allez soumettre tout à l'heure à notre invité et qui va peut-être vous ouvrir les portes d'une levée de fonds massifs qui vous permettra enfin de faire décoller le projet Lucy Gali. Mais on y reviendra. Parlez-nous plutôt des gens que vous avez rencontrés. Est-ce que comme Manon, il pensait que le deep tech, ça se dansait?
Ah, on me l'a sorti.
La deep tech, bah ça sonne comme un genre de musique, non?
J'écoute de la deep tech. J'écoute quoi?
Ouais.
Ouais, ça sonne bien. Voilà, et donc ça n'apportait pas la plus-value attendue pour le complètement à la rue.
Il est bien, ça c'est
cette
bien ça
qu'il voulait filer.
Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Donc Greg, qu'on vient d'entendre, ne fut pas conservé au montage.
Ah bon,
un peu comme les douces assorts des vendredis où Cyril rit tant de ce qu'il a écrit.
Ouais, c'est clair.
Qui ne va pas terminer ses phrases. La deep tech, c'est flou pour vous dans la rue. Alors je vous ai demandé quelles avancées techniques ou technologiques ont changé vos vies. Vos réponses dans la prochaine demi-heure.
À vos côtés, Arnaud Delatour, elle est ravie d'être là. Hein. Le thème l'intéresse, elle a hâte que vous nous parliez de toutes ces technologies de rupture. Mais elle a quand même une question, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant de tout ce poppers qu'elle avait ramené?
Oh, je vais bien trouver, vous inquiétez pas.
Vous êtes pas vendredi prochain.
Bah non, vous êtes contre la cage.
Oui,
vous êtes censé démentir mes accusations honteuses.
Et bah
vous
vous enfoncez dedans. Mais non, mais on n'en a pas devant nous. Ça va, les gens savent. Oh.
En tout cas, je sais pas ça.
Non, franchement, je pense que les gens commencent à douter. En tout cas, les gens aiment votre veille sanitaire. Oui. Au programme aujourd'hui de ce tour d'horizon critique des réseaux sociaux.
Et bah, les femmes se font à nouveau body-shamer sur les réseaux. Cette fois, pas parce qu'elles prennent du poids, mais parce qu'elles en perdent. Des célébrités sont notamment accusées d'avoir recours à un médicament pour maigrir et elles sont obligées de se justifier. Je vous explique pourquoi tout ça est un problème dans ma veille sanitaire.
Vers 16h30, une sale rumeur affirme qu'étant retombée par hasard sur un vieux quiz, nouvelle technologie particulièrement informatif et sur le plan de l'humour presque aussi désopilant que la saison 2 de LOL qui ressort, j'aurais, j'utilise bien le conditionnel, le funeste projet de vous le rediffuser tel quel. Honte à celui qui croirait ses ragots. En fin d'émission, ce sera ma fierté de vous présenter une chronique toute neuve de Lucie Carbone. Mais d'abord, commençons par la minute chauvine. Arnaud Delatour, vous qui êtes un expert des technologies les plus avancées, on l'aura compris, comment vous situeriez déjà la France dans le paysage mondial? Macron qui fanfaronne sur le fait qu'on est le pays de la tech maintenant, qu'on recrute, qu'on a plein d'investissements. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on est en pointe sur ces sujets deep tech en tout cas?
Alors ça va être difficile de se comparer à la Chine ou aux États-Unis qui sont quand même beaucoup plus gros.
Ouais.
Mais en Europe, je pense qu'on peut quand même dire qu'on est, le pays leader. Et si on se compare quand même aux États-Unis ou au UK, en termes de publications scientifiques, on est à peu près pareil par rapport au PIB. Par contre, pour autant de publications scientifiques, il y a deux fois plus de start-up créées au Royaume-Uni et trois fois plus aux États-Unis. Donc il y a quand même un sujet pour transformer la recherche.
D'accord, mais en recherche fondamentale, c'est déjà un bon point, on est bon.
Oui, on tient un très bon talent, de la bonne recherche.
Face à vous, quand on pense technologie de rupture, on pense immédiatement Cyril Lacarrière. C'est évidemment un des tout premiers noms qui vient à l'esprit, puisque je rappelle qu'en termes d'innovation disruptive, Cyril avait voulu lancer en 2003 une chaîne de vidéoclub pour, je cite, « aller bouffer Vidéo Futur ». Hélas, faute d'une mise de fonds suffisante, Vidéo Avenir mettra la clé sous la porte 3 mois seulement après son lancement. Bonjour Cyril.
Mais vous vous souvenez que Netflix, à l'origine, c'est ça, c'est un vidéoclub, mon vieux, à distance.
Ils ont su s'adapter.
Mais on
ne se serait jamais rencontrés.
Et ça aurait été triste.
Ça aurait été très triste. Alors, vous nous parlez aujourd'hui en initié de cette deep tech.
Oui.
Dites-nous, la deep tech, d'où ça sort, Cyril?
C'est à une femme entrepreneuse qu'on doit ce terme, Swati Chaturvedi, une Américaine une férue de nouvelles technologies, aujourd'hui à la tête d'un fonds d'investissement. Un fonds qui soutient justement des startups aussi, qui se lancent dans la deep tech. C'était il y a 10 ans, tout pile, que Chatur Vedi invente ce terme, 2014, donc deep tech, qui permet de définir une nouvelle catégorie d'entreprise, celle qui s'appuie sur des découvertes scientifiques tangibles, des découvertes dont on imagine qu'elles seront capables un jour de bouleverser le marché. Comme par exemple la fameuse Lucy Galou. La tasse, imaginée par Quentin Lui, qui va changer le marché des mugs à jamais. Une tasse qui fait le bruit des cigales quand vous buvez votre café. Clairement, on est dans de la pure deep tech.
C'est bien vendu en tout cas.
C'est la définition même de la deep tech. Alors, à part ce projet révolutionnaire, c'est quoi exactement cette deep tech telle qu'imaginée par cette investisseuse?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas confondre la deep tech et attention, la shallow tech. Si je traduis basiquement, d'un côté vous avez la technologie profonde et de l'autre ce qu'on pourrait appeler la technologie superficielle. Et qu'est-ce que c'est que cette technologie superficielle? En fait, c'est juste ce qui permet de transformer le modèle d'une entreprise. Meilleur exemple, Uber. Ça a révolutionné le marché, oui, mais sans que ça s'appuie sur des technologies nouvelles ou très avancées. En fait, ces technologies existaient déjà, et même le concept existait déjà, puisqu'il s'agissait des taxis. L'idée de la deep tech, selon ce qu'en dit Swati Chaturvedi, c'est justement de différencier ces entreprises de la masse des autres entreprises de start-up technologiques. En fait, la deep tech, c'est une espèce de club de super geeks ultra diplômés, genre les personnages de la série Big Bang Theory, mais qui veulent résoudre les grands problèmes du monde. Ce qui les intéresse n'est pas de créer le nouveau Candy Crush ni le nouveau TikTok, et encore moins une tasse qui fait des sons de cigales.
Pourquoi pas?
Bah parce que. Mais de lutter contre le réchauffement climatique. Alors, quels sont les projets de ceux qui font de la deep tech? Qui fait de la deep tech? D'où viennent les investissements? Quelles sont les technologies qui vont permettre de sauver le monde? Et combien de temps ça prend de créer des outils révolutionnaires? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Arnaud Latour, est-ce que vous êtes d'accord avec ce résumé rapide et cette différence entre la tech profonde et la tech superficielle?
Oui, c'est bien résumé. Effectivement, il y a une dizaine d'années, nous aussi, on a senti le besoin de créer cette communauté, de créer un mouvement différent, parce que les entrepreneurs qui sortaient du monde académique, qui avaient quand même des enjeux de R&D pour apporter leur solution sur le marché, recherche et développement, effectivement, en fait, ne se retrouvaient pas dans l'état d'esprit, la culture ou tout l'écosystème tech, parce qu'en fait, on ne parle pas de shallow tech, on parle... C'est vrai qu'après deux décennies de transformation digitale, le terme de tech est devenu synonyme finalement de uberisation, transformation digitale. Et donc, ce qui peut-être était, il y a 20-30 ans, la technologie, un sujet où il y avait de la recherche et développement, il y avait des enjeux technologiques, est devenu un terme qui avait un peu perdu de ce sens-là. Et finalement, avec le terme de deep tech, c'est comme si on réinventait le terme de tech il y a 20 ou 30 ans, et pour désigner ces startups qui ont un enjeu de R&D pour arriver sur le marché.
Et c'est quoi, pardon, la différence d'état d'esprit avec ceux qui sont plutôt dans l'ubérisation de la société? La deep tech, c'est quoi l'état d'esprit, si vous deviez le définir?
C'est vrai que dans l'écosystème, on va dire tech traditionnel, il y a eu beaucoup de pas mal de gens qui étaient là pour aussi rechercher assez rapidement des gains, un enrichissement. C'était le côté okay, assez facilement, on va mettre une solution sur le marché, on va essayer de devenir très riche. Ça, c'est des choses qui sont pas possibles dans la deep tech parce que justement, il y a des années de labeur avant d'arriver sur le marché. Donc déjà, ça fait un filtre à l'entrée et il n'y a pas toute cette, ce genre de personnes qui sont là un petit peu plus pour la fame ou pour l'argent.
Et aujourd'hui, les grands talents, les grands cerveaux du moment, ils vont plutôt vers la tech superficielle ou vers la deep tech, justement? C'est facile de les recruter ou ils se disent, nous aussi, on veut faire du fric rapidement?
Alors, on fait aussi du fric dans la deep tech.
C'est important de le rappeler.
Oui, bien sûr, c'est juste que ça prend un peu plus de temps et c'est un peu plus difficile. Et je pense qu'il y a aussi un gros attrait qui est lié au problème que ça permet de résoudre. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de talents aujourd'hui qui vont vers des sujets de santé, surtout environnementaux,
qui veulent mettre du sens à ce qu'ils font.
Et voilà, et c'est pas avec de la blockchain ou une app digitale qu'on va capturer le CO2. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont dans la deep tech aussi.
Parfois, il est extrêmement pertinent dans le choix des titres musicaux qui ponctuent notre émission, et parfois, il se mélange les pinceaux entre les émissions normales et les émissions vintage. Voici certainement pourquoi on écoute maintenant Disco 2000, Pulp, sur France Inter. Merci quand même, Cyril.
And they said that when we grew up,
La tech vous dépasse, alors imaginez la deep tech. On zoome cet après-midi sur la tech des techs, la tech de pointe. Avec vous, Arnaud Delatour, PDG et cofondateur de Hello Tomorrow, une galaxie de start-up qui sont donc dans ce domaine de la deep tech. J'ai l'impression que c'est une forme de retour aux sources de ce qui fait vraiment l'innovation, l'innovation pure, au-delà de toutes ces applis que les gens inventent pour faire du fric rapidement. Expliquez-nous, vous, comment vous êtes allé vers ça? Pourquoi ça vous a passionné, la deep tech?
Alors, c'était en 2011, donc pour peut-être rappeler le contexte, c'était déjà le renouveau de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'après la bulle Internet, il ne se passait plus grand-chose. Après, il y a eu Blablacar qui a commencé à avoir un peu de succès, donc ça a donné des idées à d'autres entrepreneurs. Et en 2011, il y avait l'émergence vraiment d'un réseau, d'un écosystème tech, donc de start-up en France et en Europe. Mais pas du tout, c'était complètement hermétique au monde académique. Moi, à l'époque, je faisais un doctorat à l'École des Mines, donc j'étais dans ce monde académique. Et avec Xavier, l'autre cofondateur qui lui aussi faisait un doctorat, on a voulu utiliser l'entrepreneuriat comme un moyen de faire sortir la science des labos pour qu'elle ait un vrai impact sur la société. Donc on a commencé à créer quelques événements dans la cantine de l'École des Mines, dans des amphis, et en 2013, deux ans plus tard, on a fait un premier appel à projet pour des porteurs de projets européens donc qui sortaient du milieu académique. Et on a eu 1500 candidatures. Donc on a vu qu'il y avait un vrai engouement. Il y avait vraiment des gens qui étaient en train de faire bouger les lignes. Et on a réuni tout ce monde-là avec des investisseurs, des industriels à Paris. C'est la première édition de l'événement qu'on fait maintenant chaque année. Et il y a eu un retour super positif sur le fait qu'on crée une communauté où ces entrepreneurs se reconnaissaient, parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans des événements comme le Web Summit, des choses comme ça, où c'est une grosse masse d'entrepreneurs où personne ne comprend rien à ce qu'ils font, en fait.
Voilà. Et alors, justement, pour qu'on comprenne, nous, ce que vous faites, concrètement, c'est quoi les domaines d'application de la deep tech? Vous pouvez citer quelques exemples?
Alors, il y en a beaucoup. Les plus gros, là où nous on voit le plus d'innovation, c'est il va y avoir la santé. Donc ça, on peut penser à Moderna qui a fait le vaccin avec l'ARN messager en un an au lieu de 10 ans auparavant. Donc
ça c'est de la deep tech. Il faut dire aux auditeurs, découvrir la fonction de l'ARN messager sur un vaccin, voilà, c'est de la deep tech.
Ça faisait peut-être 10 ou 20 ans que la technologie de l'ARN messager était en incubation dans le monde académique, mais là c'était la première fois que ça avait une vraie application commerciale en développant ce vaccin pour le Covid. Un autre domaine important, c'est l'énergie. Donc, toutes les nouveaux matériaux pour faire des panneaux solaires, des manières aussi de créer par exemple de l'essence pour les avions qui viennent pas du pétrole mais
à l'essence synthétique, c'est aussi de la
diesel. Ouais, l'essence synthétique.
Je comprends pas ce que c'est l'essence synthétique, je sais pas si vous pouvez l'expliquer en deux mots parce que ouais, c'est compliqué, mais
c'est créer un équivalent des hydrocarbures utilisés dans l'aéronautique par exemple, mais au lieu de venir du pétrole qu'on va extraire dans le sous-sol, on va utiliser d'autres sources de carbone et d'hydrogène qui sont la matière fondamentale du pétrole. Donc on va passer par un moyen de production différent pour arriver au même résultat.
Et ça marche aujourd'hui déjà ?
Aujourd'hui ça marche déjà. L'enjeu c'est de que ça passe à l'échelle à un coût qui soit acceptable pour l'industrie, oui, parce que ils vont pas payer deux fois plus cher une essence même si elle vient pas de l'industrie pétrolière.
Ça marche pareil.
Est-ce que ce sont forcément des startups qui développent de la deep tech ? Est-ce que des entreprises par exemple déjà bien installés peuvent le faire aussi?
Oui, bien sûr. Nous, avec notre activité de conseil, on accompagne beaucoup d'industriels dans de nombreux secteurs sur ces activités. Mais c'est vrai que là où il y a eu une vraie révolution qui a, je pense, lancé d'ailleurs ce terme de deep tech, c'est l'arrivée à maturité de différentes technologies qui ont beaucoup de potentiel en biotech, dans la science des matériaux, l'intelligence artificielle, en fait, à une maturité suffisante pour qu'une start-up avec 1 million d'euros, qui est à peu près le montant qu'ont les start-up quand ils lèvent des fonds en amorçage, au début de leur vie, puissent développer un premier produit, un premier prototype. En fait, en 10 ans, par exemple, le coût de la lecture de l'ADN ou de l'écriture de l'ADN, ou alors pour envoyer un satellite dans l'espace, ces coûts ont été divisés par 10, 100, 1000. Mmh. Et donc, c'est ça qui fait que maintenant, des start-up peuvent faire ce qu'avant, seulement des grands groupes pouvaient faire.
Un mot de politique. En 2018, le gouvernement a lancé un plan qui vise à engendrer la création de 500 start-up deep tech par an à l'horizon 2030. Alors déjà, c'était il y a 6 ans. On en est où de ce plan? Et vous le sentez?
Il ne faut pas s'attendre à ce que les solutions viennent du gouvernement et il faut que l'écosystème en général fonctionne. Enfin, c'est ça l'objectif, quoi, qu'à terme, il n'y ait pas besoin du gouvernement.
Pour aller plus loin, approfondir ce qu'on se dit, peut-être entrer aussi dans un niveau de plus grande technicité, il est temps, Arnaud, de nous tourner vers l'inventeur de la tasse, Lou Cigaloo. Ah. Quentin, vous, la deep tech, ça vous connaît.
Hein,
mais c'est hélas, c'est là, pas forcément le cas des passants que vous avez croisés. On va dire qu'il y a des jours avec et des jours sans, des jours où vous faites lire aux gens le mot blog et des jours où vous avez une pancarte deep tech entre les mains.
Vous avez tout compris, Mathieu Noël. Alors, dans ces cas-là, je flâne dans les rues de Paris avec mon âme en peine et mon micro en berne, jusqu'à ce que j'aborde ce monsieur qui marche les mains dans le dos avec un livre calé entre ses doigts. Il refuse que je l'enregistre au début, mais j'aime bien sa voix, alors j'insiste. Il cède et il marmonne un truc, quelque chose. Qu'est-ce que vous venez de dire ?
Que vous êtes un casse-couille, hein, ce qui prouve que vous êtes un bon journaliste.
Ah. Bonjour, monsieur.
Bonjour, jeune homme.
Quel est votre prénom ?
Appelez-moi Sir Winston.
Sir Winston, vous avez quel âge ?
J'ai 73 piges, mais bon, c'est pas ça qui est important. Là, je suis pressé, mais vous êtes arrivé à me persuader de quand même de vous consacrer du temps.
Mais chacun ses techniques et ses petits secrets. Mon talent, c'est d'arrêter les gens. Je lui explique que je fais lire un mot de notre époque aux gens dans la rue.
Putain, j'ai pas mes yeux en plus. Oui, mais je ne sais même pas ce que c'est que la deep tech. Ça va bien. Non, mais c'est la technique profonde.
Alors, c'est quoi ?
Ben, je sais pas ce que c'est, puis je m'en branle. Vous êtes d'autant plus un bon journaliste que vous m'avez menti en me disant que vous en aviez pour une minute. Ça fait déjà 3 heures.
Parce que vous parlez beaucoup.
J'ai été journaliste, hein, je l'ai pas dit ça, mais j'ai été pendant 40 ans journaliste.
Ça.
Ben, à l'équipe, hein. Grand reporter et tout, j'ai dû faire 3-4 fois le tour du monde. Enfin, bref. Hein, bon.
Sur le livre qu'il a entre les doigts, je relève son nom, Patrick Lemoine, un ancien rédacteur en chef de l'équipe. Je lui demande quelle invention technologique a changé sa vie.
À moi ? La traversée de la Manche par... ah putain ! Par Blériot, en 1909. C'est-à-dire l'avion. L'avion a changé ma vie dans la mesure où l'avion a pu me faire, je vous dis, 4-5 fois le tour du monde. Donc ça va. Si vous vouliez des techniques d'aujourd'hui, rien. Voilà, rien.
J'ai compris.
Hein ?
Merci, Sir Winston.
Longue vie à vous, jeune homme.
Clin d'œil, sourire, je poursuis ma quête et j'arrête Colette. Et je lui demande son âge.
81 ans.
Lisez-moi ça à haute voix.
La deep touch, la technique profonde.
On la refait ? On réessaie de la refaire ?
La deep tech.
C'est ça. Et là, ça marche. Je lui explique. Alors, quelle invention a changé durablement sa vie ?
Oui, je Je me souviens de la machine à laver le linge. Donc ça, c'était très important, qui était ronde et énorme et qui faisait beaucoup de bruit.
Vous vous souvenez d'avoir vécu cette arrivée-là comme une avancée technologique qui faisait progresser
Pas pour moi, mais c'était pour ma mère quand même. La machine à laver le linge, la machine à laver la vaisselle m'a permis de faire ce que j'ai fait de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle.
Est-ce que les robots ménagers qui font gagner du temps étaient de la deep tech avant l'heure? Après tout, ils ont changé durablement la pénibilité de certaines tâches ménagères, encore plus pour les femmes de cette génération. Anaëlle est d'une autre génération. Elle a la petite vingtaine, elle ne saisit pas notre mot du jour, alors elle sort son smartphone pour trouver une définition.
Les entrepreneurs deep tech mobilisent les dernières avancées de la recherche scientifique pour répondre aux enjeux de demain. Leur mission, proposer les produits qui transformeront durablement nos modes de vie.
Durablement, qu'est-ce qui a bouleversé nos vies dans la technologie?
L'avènement d'Internet, la démocratisation de l'accès à l'information et notre interconnexion, je pense.
Et oui, l'interconnexion, Internet et les réseaux sont sans doute les plus beaux exemples de la deep tech des dernières décennies. Lui, justement, débarque devant moi, chewing-gum, bouclette brune et AirPod intra-auriculaire.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander votre prénom?
Théo.
Théo, vous avez quel âge?
17 ans.
Qu'est-ce que vous faites là?
J'ai un entretien pour une école de commerce.
Wow, grand jour.
Ah ouais, important.
Dernière réaction du jour sur...
La deep tech, c'est pas une, c'est un style de nouvelle technologie.
Récemment, genre? Bah, ChatGPT.
Ah ouais?
Bah ouais, maintenant, c'est partout l'intelligence artificielle. Hein.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, que c'est bien, mais ça peut être dangereux si on l'utilise à mauvais escient. Genre, si on reproduit la voix avec l'intelligence artificielle, on peut faire dire ce qu'on veut à n'importe qui. Hein.
Ouais, ça va durablement changer nos vies.
Ouais, c'est le futur.
Ne serait-ce que dans la réception de l'information.
Ouais, on va plus savoir qui croire et ça peut vite devenir dangereux si on contrôle pas ça. Hein.
Les deepfakes, conséquences de la deep tech, ça s'entend. Il utilise quoi, lui, Théo?
En vrai, ce que j'utilise le plus, c'est l'application de ChatGPT. C'est sur nos téléphones, quand on clique, on pose n'importe quelle question et la réponse, elle apparaît via une intelligence artificielle.
La dernière fois que ChatGPT vous a servi, c'était quoi?
Pour trouver les réponses à un contrôle de maths. Donc, il y a 2 heures, là.
Ça a marché?
Bah ouais, ça a affiché les bonnes réponses, hein. Ça fait les calculs rapidement.
Hein. Allez, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Alors, de Blériot, l'aviateur, hein, pas le resto, Blériot et la liberté de se déplacer à travers le monde en passant par Internet, l'interconnexion et aujourd'hui, ChatGPT, les avancées techniques et technologiques changent notre quotidien. Ouvrez l'œil sur vos smartphones, car le futur est peut-être déjà entre vos mains.
Le futur est déjà peut-être et entre vos mains. On dirait le nouveau slogan du nouvel iPhone. Non, c'est du Quentin, lui, journaliste du terrain et génie du marketing. Arnaud Latour, PDG de Hello Tomorrow. On parle deep tech avec vous cet après-midi. Est-ce que déjà, pour rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, est-ce que ChatGPT, ça vient de la... On peut qualifier ça de deep tech?
Oui.
Ou c'est déjà trop vieux?
Non, c'est... Il y a beaucoup de d'efforts faits pour pousser les modèles encore plus loin. Donc oui, c'est encore de la deep tech, on va dire.
On est encore là.
Chacun a sa deep tech. Mais Patrick, lui, par exemple, se fout des technologies. Est-ce qu'on se dirige vers un monde scindé en deux? Des gens qui seront dans une vie qui va durablement changer avec la technologie et d'autres qui resteront de côté?
Moi, je m'en fous des technologies, si, hein, d'une certaine manière. Non, mais
Comment ça?
Bah, je pense qu'aucun entrepreneur deep tech, il y en a peut-être quelques-uns, mais ceux-là, il faudrait qu'ils restent peut-être dans la recherche académique, mais les entrepreneurs deep tech font pas des startups pour juste jouer avec des technologies, c'est pour vraiment résoudre des problèmes. Mm-hmm. Et idéalement, en fait, la deep tech, ce que ça pourrait permettre de faire, c'est de continuer à vivre dans le monde dans lequel on vit. Mais sans pourrir la planète, donc sans exploiter toutes les ressources, mais plutôt en produisant différemment. Et c'est sûr que ce qui nous intéresse, c'est pas avoir un frigo connecté qui va venir tout seul nous apporter notre Coca-Cola bien frais. Ça va plutôt être justement les solutions dont on parlait avant, de faire de l'essence qui vienne pas du pétrole, des choses comme ça.
Manon.
Forcément, la deep tech demande des investissements financiers. Quels secteurs aujourd'hui sont les plus pris au sérieux? On parlait de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est ça?
Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, je pense qu'il y a une bulle, il y a une mode. Et donc, je pense que c'est un des secteurs dans lesquels moi j'aurais le moins tendance à investir, surtout dans tout ce qui est très accessible. Il y a des sujets qui nous intéressent, par exemple, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour trouver des nouvelles molécules pour l'industrie pharma ou des nouvelles protéines pour l'industrie agroalimentaire. Donc ça c'est super intéressant, mais bon, sinon il y a pas mal de un peu de hype, on va dire. Après les
vous investiriez où vous?
Moi j'investirais dans tout ce qui est autour de la biologie de synthèse, des nouveaux matériaux, et justement aussi la convergence entre ces technologies. Je ne sais pas s'il faut que j'explique un peu plus.
Un petit peu, peut-être.
Donc voilà, la biologie de synthèse, c'est l'idée qu'on peut, aujourd'hui, en utilisant les micro-organismes, donc les microbes, les bactéries, les levures qu'on utilise depuis des siècles pour faire de la bière, du vin, des choses comme ça.
On est au courant.
et donc, on peut les faire évoluer, on peut les programmer pour les faire produire pas seulement de l'alcool et tout ce qu'on veut pour faire de la bière, mais justement de l'essence, des substituts à l'huile de palme, tout un tas de choses. Et donc, c'est comme si, en fait, on utilisait le pouvoir de ce que la nature a développé depuis des milliards d'années, mais qu'on arrivait à le reprogrammer pour transformer les microbes en mini-usines, en fait.
Concrètement, que va changer la Deep Tech dans nos vies à court terme? On continue d'en parler avec vous, Arnaud de la Tour, juste après, évidemment, le Zoom Zoom test très attendu et 100% inédit. Oui. Je tiens à le préciser, j'ai fait une blague tout à l'heure, effectivement. Non, j'étais en train de perdre ma voix, donc je me suis dit, je vais recycler un truc, et je me suis dit, finalement, la voix est toujours là, et jusqu'au bout, je vais me battre pour vous, chers auditeurs, vous donner le meilleur, oui. Et oui, mais tout ça, ça sera après PLK, avec les miens, sur France Inter.
Ouais. Quand j'étais petit, je voulais faire des poèmes. Au lieu de ça, j'ai fait que des problèmes. Au lieu de ça, j'ai revendu le pollen, la haine, rappé comme Wu-Tang Clan, remplir nos poches comme un Abu Dhabi. Blessure sur blessure comme un Abu Dhabi. Que Dieu le sait comme Michou et Jackie, Zizou et Zazie, Grisou et Rami. J'suis dans la boîte, mais j'vais passer dedans. Pas d'avantage, j'suis pas assez blanc. Le bédo calme, il fait passer le temps. J'explique après si t'es assez grand. Mauvaise nouvelle, on est plus blasé. C'est électrique, on fait que taser. On s'attache plus, on fait que de passer. On se met ensemble, on fait que de casser. J'préfère rester dans mon coin. Non, j'suis pas loin, mais j'peux rien faire ici. Enquête sur enquête, à 25 ans, y a des frères. À la calvitie, on est indépendant, on encule les gros. Peur de personne, y'a aucune négo. Moi on a de chance, plus c'est beau. Chez nous Dory, fume Nemo. Après un an, fallait remettre les gants. J'ai tout changé, fallait refaire les plans. Adieu les rookies, on rentre chez les grands. On travaille plus fort et on sale les dents. On a mangé des murs, fait comme si tout allait. On est venu, ils nous ont dit du balai. On faisait que pire pendant que toi tu gagnais. On a bossé pendant que toi tu parlais.
Haine contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier, j'évolue, je le sais bien. Comment je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens. La haine contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier, j'évolue, je le sais bien. Comment je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens.
Ouais. Branché au monde comme le taxiphone, y'a pas d'essence, poteau ça te siphonne. J'suis en pleine forme, j'fais une sale season. En 2-3 heures, j'fais 5-6 sommes. J'veux coffrer un max au cas où tout s'arrête. Ils faisaient les sourds, on criait tout ça l'aide. J'ai le seul moment, mais dis-moi où ça mène. Un gilet par balle au cas où sous ma laine. On vient du fond de la plongée sous-marine. Mon espoir est grand, mais en vrai tout l'abîme. On reste déterminé, tout pour la team. Tout pour la MIFA, ouais, tout pour la win. Pas pour les buts, tout le showbiz qu'on a CPR. Bourré sur le rond-point, j'mets la caisse à l'équerre. Un round ou deux, tu vas finir à Necker. Depuis petit, j'suis le plus fou et le plus déter. Tu fais des coups de pute, okay, c'est noté. Pas du showcase, j'ai fini mes notés. Plus j'irai, plus la star de l'OP. Ils m'ont jeté, ils ont pas développé.
La haine contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier, j'évolue, je le sais bien. Comment je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens. La haine contre le monde entier, je reste avec les miens. Seul avec les miens, je l'ai fait de mes mains. Je suis en travaux, en chantier, j'évolue, je le sais bien. Comment je vais, j'en sais rien. Mais le bonheur me dit viens.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur les promesses de la Deep Tech, ces technologies qui changent le monde, je vous propose un quiz sur les innovations qui, en leur temps, ont changé le monde. En somme, la Deep Tech du temps jadis. Et on démarre avec probablement l'invention la plus importante du deuxième millénaire, l'imprimerie. Nous sommes en 1447 dans le duché de Lacarzouze, un seigneur se morfond. C'est la 77e lettre qu'il écrit à la plume d'oie au comité des gentilshommes de la carte de presse. 77 fois qu'il commence par ces mots. Messieurs les ronds de cuir, il y a la lettre et il y a l'esprit. Le marquis de la carrière n'en peut plus. Si seulement quelqu'un a inventé l'imprimerie, ça lui épargnerait bien des efforts. D'après vous, Manon Quentin, que va-t-il se passer? À force de prier Jésus, notre sauveur, Cyril va précipiter l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en quelle année? 1449, 1450 ou 1452? Une question vraiment facile pour se chauffer.
C'est pas une année ronde, c'est la A, 49.
J'aime ce sens de la déduction. C'est là qu'on voit que vous êtes deep tech. Vous avez un esprit scientifique. Allez. Effectivement, une année ronde dans une bonne réponse de Manon Mariani. Évidemment, parmi toutes les dates qu'on apprend à l'école, c'est une de celles qu'on retient normalement avec 1515 Marignan, 1450 inventions de l'imprimerie. Encore faut-il évidemment avoir été à l'école. Mais attention.
Ça va, oui.
On remonte encore plus loin dans le temps, à la découverte d'une invention disruptive qui va changer le monde et sans laquelle Quentin n'aurait jamais mouillé son slip d'excitation dimanche dernier en commentant le championnat du monde moto au Mans.
Une 29 919, c'est incroyable.
Une 29 219, c'est incroyable, c'est le mot. Moi, j'étais carrément sans voix. En tout cas, Quentin, ce moment de pure magie n'aurait jamais existé sans l'invention de ce qui est un élément central de la moto, la roue. On vient de loin.
Or, cette transition, elle est
magnifique.
D'après vous, où a été inventée la roue et par qui ? En basse Mésopotamie par les Sumériens, en haute Égypte par les Assyriens ou en Chine centrale par les Mandchous ?
C.
A.
Allez.
Alors déjà, rien que par élimination géographique, vous auriez dû savoir que les Mandchous ne sont pas en Chine centrale, ils n'ont jamais été. Donc bonne réponse de Manon Marie.
Okay, super.
Oui, même si certains considèrent qu'elle aurait été inventée ailleurs au même moment, les historiens penchent globalement pour une invention de la roue en basse Mésopotamie, soit l'Irak actuel, au 4e millénaire avant
notre
ère.
On n'est pas sûr en plus.
En
persan, on a qu'à la faire rôder la prochaine
fois. Alors je vous défends de vous opposer comme ça à ce qui est dit dans le Zoom Zoom
Test,
qui a été vérifié par huissier. L'huissier le regarde.
Ah oui, d'accord, voilà, effectivement.
Mettre la carrière.
Bon, il faudra. Mort de rire.
C'était juste un disque de bois qu'on creusait pour y placer un axe de rotation. Il faut attendre 2000 ans avant Jésus-Christ pour que le disque soit évidé afin d'alléger la roue, sans quoi Valentino Rossi n'aurait jamais fait la carrière qu'il a faite. Mais attention, top. Nous sommes maintenant en 1842 et je vous présente Ada Lovelace, une jeune fille de bonne famille, très douée en mathématiques, un peu comme Manon, c'est le genre de personne qui peut calculer de tête que si j'écris un quiz par jour, ça fait 5 quiz par semaine. Hein. Meuf bluffante, comme vous, Marianoche. Mais ma question est, d'après vous, qu'a inventé Ada Lovelace ? Le premier jeu vidéo de l'histoire ? Le premier programme informatique de l'histoire ? Ou le premier télescope de l'histoire ?
C'est le télescope.
Vous, c'est le télescope. Et
moi, c'est le programme informatique.
Ada,
ça me dit un truc.
Pour une fois.
C'est une femme, hein, c'est
pour
ça ?
Une fois, oui, c'est une femme. Effectivement, j'ai dit une jeune fille.
C'est une femme, oui.
Ada Lovelace, pionnière de la programmation informatique. C'est en
qui
travaillant
côté... par l'histoire.
Exactement, elle travaillait aux côtés de Charles Babbage. Il y avait un homme dans le truc. Donc,
Charles Baguette ?
Babbage.
Ah, pardon.
Et non pas Charles Baguette, qui est un ami à vous, certainement, ou le pseudo, plutôt, d'un ami à vous. Elle vient à écrire ce qui peut être considéré comme le tout premier programme informatique, au sens où il était destiné à être exécuté sur une machine. À l'origine de la grande histoire des geeks, il y a donc, oui, une femme. Mais attention, autre invention qui a changé nos vies, vous le savez, je ne vais pas m'abaisser à vous piéger là-dessus, c'est Nicéphore Niépce, qui est considéré comme l'inventeur de la photographie, même si l'histoire retient surtout le 19 août 1839 et la présentation officielle par Daguerre du premier daguerréotype qu'il a imaginé d'après les travaux de Niépce. Cyril Lacarrière, alors jeune reporter, couvrant l'événement, s'était exclamé «
C'est Caplery, c'est Caplery !»
Mais d'après vous, Manon, Quentin, pourquoi l'année 1888 est-elle plus importante encore dans l'histoire de la photo ? Parce que c'est l'année de la première photographie couleur ? Parce que c'est l'année de l'invention de la caméra Kodak ? Ou parce que c'est l'année de la naissance de Robert Doisneau ?
Pour la photographie, hein ?
Oui, oui.
C'est... Ah oh non, 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 pardon, c'est une connerie. Non, c'est une connerie, il aurait eu 100 ans.
Vous vous dites bébé ?
Ouais.
C'est une bonne réponse, Manon. C'était la réponse B, tout court. En 1888, tout change dans le game de la photo avec Kodak. Pourquoi ? George Eastman brevette l'appareil qui va tout changer car il est portable. Son slogan, vous appuyez sur un bouton, nous faisons le reste. Une miniaturisation, une facilité d'usage qui vont permettre la démocratisation de la photo. Flairant le bon filant, Cyril investira dans Kodak, mais en 2011, soit un an avant le dépôt de bilan. Le numérique qui, selon Cyril, ne marcherait jamais, étant passé par là. Enfin, attention, top ! En 2006,
beaucoup de questions, hein ?
Écoutez bien.
Ouais, quoi, parce que c'est facile. Ouais.
Celle-ci, elle se rapproche vraiment de notre thème du jour. Hasard a
oui, parce que là, c'était encore sujet.
Il était temps qu'au bout de 37 minutes, une question technologique ait lieu.
Oh là là.
En 2006, Hasard Askin, un type de 39 ans, invente un truc qui va changer nos vies. Hélas, pas toujours pour le meilleur. Une invention qui est aujourd'hui décriée. D'après vous, Hasard Askin est l'inventeur des voitures autonomes, des drones autonomes ou de l'infinite scroll ?
B. C.
Ah ouais, ouais. C'est ça. B.
Hasard Askin est le diable.
Bah oui.
C'était la réponse C. C'est l'infinite scroll qu'il a inventé. Avant lui, même sur smartphone, on devait changer de page pour voir d'autres contenus. Grâce à ce génie du mal et son scroll infini, on n'a plus rien à faire qu'à se laisser happer par le vortex de conneries que nous propose le net. Une étude récente démontre qu'un utilisateur scrolle chaque jour l'équivalent de 180 mètres. Imaginez Manon, avec votre petit doigt, c'est plus que ce que vous faites en marchant. Victoire de Manon Marianne.
Oui. Je sais pas, belle victoire.
Là.
4-0, me dit Cyril.
Parce que j'ai été insolent.
Magnifique.
parce que j'étais insolent. Je paye mon insolence.
Hello Tomorrow, un nom qui annonce la couleur et que j'aime prononcer à l'anglaise. Vous êtes Arnaud de la Tour, le PDG de cette pépinière à start-up. Votre dada, comme dirait Omar Sharif, un autre précurseur, la Deep Tech. On zoome sur ce terme aujourd'hui, un terme qui évoque donc les entreprises qui bossent sur des technologies de rupture, celles à même de changer nos vies. Les entreprises de Deep Tech, elles se concentrent sur des sujets, j'ai lu ça, en identifiant les contraintes industrielles qui sont encore irrésolues. Comment on identifie ces problématiques? Qui le fait? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, dont c'est le métier d'identifier ceux qui appellent une solution?
Non, il n'y a surtout pas d'intermédiaires qui doivent faire le lien entre des problèmes et des porteurs de solutions. C'est les mêmes personnes souvent qui identifient le problème et qui ont la solution. Et souvent, soit c'est des gens qui ont de l'expérience dans l'industrie, qui ont identifié un problème. Par exemple, là, on va investir dans une start-up où c'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans l'industrie agroalimentaire, qui a vu des problèmes dans le sous-marché des protéines alternatives et voit une solution potentiellement de l'intelligence artificielle pour résoudre ces problèmes. Et donc là, il va aller chercher une technologie. Et à l'inverse, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont des chercheurs, qui ont une technologie qui a un gros potentiel, et ils vont chercher à trouver quel est le marché où ce potentiel va se transcrire en problème clairement identifié, où il y a quelqu'un qui va être un client et qui va être prêt à payer.
Et est-ce qu'on parlait tout à l'heure des essences de synthèse, est-ce qu'il y a d'autres domaines concrets où les deep tech ont résolu des problèmes qu'on avait depuis longtemps, ces dernières années?
Oui, il y en a plein. Par exemple, l'invention de la roue, ou même le feu, si on revient encore plus en arrière.
C'est vrai que le feu, c'était pas mal, hein, ça a bien changé la donne.
Mais sinon, plus récemment, par exemple, les panneaux solaires, le fait que... ça fait quand même 40-50 ans, ça fait longtemps, mais le fait qu'on puisse faire artificiellement ce que les plantes font depuis des millions d'années, voilà, transformer la lumière en électricité, en énergie... Il y a beaucoup de start-up aussi qui cherchent à créer les matériaux de construction du ciment, du verre, de l'acier, en utilisant beaucoup moins en émettant beaucoup moins de CO2, de gaz à effet de serre. La liste, elle est infinie comme ça, mais je peux continuer.
Non, je me doute que vous pouvez continuer, mais j'ai une question souveraineté technologique. On parlait tout à l'heure de la comparaison avec les États-Unis et la Chine. Comment on fait, une fois qu'on a une start-up qui a une idée vraiment révolutionnaire, on sent que ça va cartonner, on ne va pas se faire bouffer par des Américains qui viendraient mettre sur la table des gros biftongs et nous piquer notre petite start-up? C'est vous qui vous occupez de ça?
Alors non, c'est peut-être la DGSE. Nous, oui. Nous, pour être honnête, on est relativement agnostique sur... ce qui nous importe, c'est que la solution, elle arrive sur le marché et qu'elle résout un problème.
Vous n'êtes pas franchouillard.
Que ce soit ici, pour être honnête, pas spécialement. Après, si c'est possible de le faire en France, je préfère. Mais je préfère que ça se fasse tout court, plutôt que ça ne se fasse pas, parce qu'on a empêché un investisseur d'investir dans une start-up française. Après, il faut mettre les moyens en France. Il faut avoir la capacité de financer le développement de ces start-up qui sont assez gourmandes en capital, avec des investisseurs français ou européens, sinon effectivement elles vont aller chercher des financements ailleurs.
Vous disiez tout à l'heure que vous attendez pas grand-chose du gouvernement, vous débrouillez un peu tout seul, mais le gouvernement il s'agit tout le temps, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse le gouvernement? Il y a peut-être quand même quelque chose, parfois au quotidien, vous vous dites tiens là-dessus, sur ce dossier, on aimerait bien, pas forcément une aide, mais une autre gestion qui pourrait aider la Deep Tech française.
Encore une fois, il y a des financements qui sont bien fléchés. Il y a quand même pas mal d'initiatives pour qui sont opérées assez souvent par BPI France, par exemple, pour aller convaincre, enfin pour porter la bonne parole, on va dire, dans le monde académique. Donc il y a énormément de choses qui sont faites et les personnes que j'ai rencontrées au sein du gouvernement sont brillantes et
Oui, parce que la première partie, très bien. Quentin.
Quelles sont les régulations et réglementations actuelles des technologies émergentes issues de la Deep Tech? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire aujourd'hui?
Alors, on n'a pas le droit, par exemple, de mettre sur le marché une nouvelle molécule dans l'industrie agroalimentaire qui n'est pas issu d'un ingrédient déjà naturel ou autorisé. Et donc, par exemple, si on modifie génétiquement des levures pour produire telle molécule, cette molécule, il va falloir 3 à 4 ans pour qu'elle soit autorisée pour arriver sur le marché.
Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays?
Ce qui n'est pas le cas à Singapour, par exemple, où c'est beaucoup plus rapide. Aux États-Unis, c'est un peu plus rapide aussi. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait des régulations, mais il y a peut-être quelquefois des adaptations à faire.
Vous écoutez France Inter, moi je suis sur France Inter, on était fait pour se rencontrer. Dans quelques instants, Lucie Carbone, qui est un peu, vous verrez, la spécialiste de notre sujet du jour, rapport à sa vie d'avant, quand elle gagnait de l'argent, nous rejoindra. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Manon Mariani, avec un sujet important aujourd'hui dans votre veille sanitaire, en forme de message à certains membres de cette équipe qui n'hésitent pas, de temps à autre, à remettre sur la table l'histoire du pull blanc de Quentin, alors même qu'il a perdu 17 kilos au bas mot depuis l'époque de cette tragique photo. Zoom sur le body shaming, et plus précisément une nouvelle forme de body shaming.
Cette honte du corps dont sont victimes énormément de personnes à cause des commentaires qu'elles subissent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur leur forme, leur poitrine et surtout leur poids. Le body shaming est devenu un véritable fléau ces dernières années et les femmes en sont malheureusement les premières victimes. Léna Situation en a fait les frais, notamment de la part d'hommes qui critiquent sa petite poitrine. Pareil pour Ariana Grande, que certains jugent trop maigre. Selena Gomez aussi, quand elle a pris du poids, ou encore Adèle, hein, qui a longtemps été traitée de grosse sur les réseaux. Et puis après, les gens se sont moqués d'elle parce qu'elle avait maigri. Bref, c'est une triste réalité, mais être une personne publique aujourd'hui, c'est s'exposer encore et toujours à de potentiels commentaires malveillants qui scrutent le moindre recoin des corps pour les critiquer. Et aujourd'hui, sur les réseaux, un nouveau mot est utilisé pour juger le corps des femmes. On le voit un peu partout, sur X, sur TikTok, dans les commentaires Instagram, sans que tout le monde sache de quoi il s'agit. Ozempic.
Effectivement, je ne vois pas du tout ce que c'est, Manon.
Eh bien, c'est le nom d'un médicament utilisé pour traiter le diabète. Je vous en avais déjà parlé brièvement dans une chronique, mais depuis quelques temps, des influenceurs en font la promotion sur les réseaux, alors pas pour le diabète, mais en disant que ce médicament ferait perdre du poids très rapidement. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement, vu qu'il stimule fortement la production d'insuline, il limite l'appétit. Résultat, en prenant ce médicament, la perte de poids peut atteindre 15% de notre poids initial. Sauf que vous en doutez, ce n'est pas un médicament à prendre à la légère. Déjà, il est donné sous ordonnance et puis il y a des effets secondaires à prendre en compte. Et enfin, à cause de la tendance TikTok, il y a une pénurie du médicament depuis le début de l'année partout dans le monde. Je rappelle qu'il est utilisé en priorité pour soulager les personnes diabétiques qui en ont réellement besoin, pas pour des TikTokeuses qui veulent rentrer dans du 34. Et puis, autre conséquence donc, des personnalités se font maintenant body shamer sur les réseaux à chaque fois qu'elles apparaissent amincies, car on les accuse de prendre de l'Ozempic.
Qui par exemple,
madame? Dernièrement, c'est le cas de Kylie Jenner. Pour certains, la cadette des Kardashians a une silhouette beaucoup plus fine qu'avant et ça cache forcément quelque chose. Sur X, on peut lire des messages qui l'accusent de prendre du Ozempic. Kylie est trop belle, est-ce que c'est vraiment naturel? Je sens qu'il y a du Ozempic derrière. Depuis qu'elle sort avec Timothée Chalamet, elle prend du Ozempic, etc., etc. Encore une fois, son corps est analysé et objectifié par des milliers de personnes. Avant elle, c'est sa sœur Kim Kardashian qui a été accusée de prendre le médicament. Pareil pour la chanteuse Kelly Clarkson ou encore le rappeur 50 Cent. Les trois stars ont été obligés de prendre la parole à ce sujet pour réfuter les accusations. Kim et 50 Cent ont dit qu'ils allaient au sport pour perdre du poids et Kelly Clarkson a révélé être sous traitement pour sa thyroïde, d'où son amaigrissement.
C'est quand même hallucinant d'en être obligé à se justifier.
Totalement, car encore une fois, une perte de poids ou une prise de poids d'une personne que l'on ne connaît pas ne devrait pas être un sujet de discussion publique. Il n'y a rien de drôle, car des gens ont aussi de vrais problèmes de santé et certains sont aussi sujets aux troubles du comportement alimentaire. Je rappelle par exemple que Chadwick Boseman, la star de Black Panther décédée en 2020, a été aussi accusé de prendre du Ozempic alors qu'il était atteint d'un cancer. Le problème est que de l'autre côté, Ozempic est porté au nu par des personnes qui vendent ses mérites sur TikTok, hein, comme je vous le disais, mais pas que. C'est aussi le cas de certaines célébrités qui n'ont aucun problème à dire publiquement qu'elles se sont procurées le médicament pour perdre du poids. Oprah Winfrey par exemple, Rebel Wilson, l'actrice australienne, ou encore Whoopi Goldberg. Du coup, le public a l'impression que c'est entré dans les mœurs d'Hollywood et qu'Ozempic, c'est le produit miracle des stars. Pour autant, ça ne peut pas être une excuse pour juger le corps des uns et des autres. Déjà parce que ce n'est pas parce que certains y ont recours que c'est le cas de tout le monde. Et puis car ce n'est pas parce que l'on parle d'une perte de poids que c'est forcément quelque chose de positif. Les gens n'ont manifestement pas l'impression de faire de body shaming, hein, ce qui prouve que l'on est encore bien ancré dans les clichés du corps idéal qui doit être mince, qui doit être svelte. On avait fait une émission sur le body positive l'année dernière, eh bien je pense que ce thème sera encore d'actualité durant quelques années.
Merci beaucoup Manon et je remarque rétrospectivement que sous mes stories Instagram, personne n'a mis de commentaire sur Ozempic sur moi, preuve que je n'ai pas perdu un gramme depuis bien des mois.
Vous êtes déjà
très svelte,
Mathieu,
oui, bien
et
sûr.
Et sur mon poids à moi, personne ne dit rien, personne ne s'excuse.
On n'a pas publié la photo déjà, soyez contents.
Je l'ai publié moi.
Il l'a publié lui-même. Merci Manon, Zoom Zoom Zen continue. Une étoile filante de la Deep Tech, Lucie Carbone, qui fut informaticienne dans une autre vie, va nous rejoindre juste après un morceau très attendu. Vous le savez, c'est une journée spéciale Billie Eilish sur France Inter pour la sortie de son nouvel album Hit Me Hard and Soft. Excitante contradiction, le titre Hit Me Hard and Soft sera en écoute pour la première fois en exclusivité sur Inter ce soir à 22h. Mais pour vous faire patienter, voici déjà Chihiro, Billie Eilish sur Inter.
Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. Like I change, you could borrow. When I come back around, when I know what to say. Not today, maybe tomorrow. Before you can cope with anymore, he told me it was war. Said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Did you?
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Pour conclure cette émission sur la Deep Tech, on a convié celle qui a été dans une autre vie Digital Manager, Product Owner et d'autres noms de métiers à la con dont on n'a pas vraiment compris le principe, et elle non plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est devenue humoriste. Bonjour Lucie Carbone.
Coucou, bonjour tout le monde et merci Closer. Donc effectivement, je ne peux pas le cacher, moi j'ai travaillé dans la tech et j'ai même réussi à me soigner puisque je dors en mode avion. Donc quand j'ai reçu ce sujet, la Deep Tech... Oh, on aurait dit Léa Salamé devant une menthe à l'eau. Oh, c'est devenu chiant. Donc la Deep Tech, alors ça se compose de start-up et d'entrepreneurs, enfin d'entrepreneurs de galériens donc, ouais, parce que c'est tellement dur de créer sa boîte. C'est vrai, franchement on dirait Blanche-Neige au milieu des sept nains quoi. C'est-à-dire que toute conversation démarre par ça va pas marcher, merci grincheux. Donc ça, dans la vraie vie, ça s'appelle des parents. Ensuite il y a plein de petits profs partout. Alors moi j'aurais pas fait ça, si tu veux le refaire, grand bien t'en fasse, voilà. Donc ça s'appelle un investisseur. Ensuite on retrouve Joyeux, tu sais, celui qui a rien compris mais qui te suit, mais c'est super, allez vas-y, yes. Ton conjoint ou ta conjointe. Ensuite voilà, dormeur, ton ancien collègue. Et puis il y a évidemment timide. Fin de l'intervention de Timide, le banquier, donc, et puis... Achoum. Voilà, ça c'était Achoum. Donc, la Deep Tech, c'est aussi un mélange d'innovation et de recherche, et peut-être que le mieux, ça reste de donner un exemple, comme cette plateforme automatisée de machine learning et d'intelligence artificielle permettant de prévoir le futur à partir de l'analyse de data et d'algorithmes de machine learning. Bon, bah, je crois que c'est plutôt clair. Vous avez des questions? On peut partir en week-end? Évidemment qu'on n'a rien compris. Hein. Non, mais vraiment, on dirait mon prof de philo qui m'explique le grand oui nietzschéen comme si j'étais née avec. Ouais. Eh bien, c'est simple, t'as compris, Lucie? Oui, alors que non, j'ai rien compris. Alors, petite question, excusez-moi la Deep Tech, est-ce que vous pouvez un tout petit peu revenir parmi nous? Parce que dans notre monde à nous, on a encore Parcoursup. Non, mais c'est vrai, le site sur lequel les gens, les étudiants donc font leurs vœux d'études supérieures, et vu le nombre de problèmes du site... Ça prie fort. Hein. Oh, ça prie fort. Apparemment, dans les nuages, on aurait même entendu un chut. Et c'est pas la dame du CDI. Hein. La première cause de mortalité des personnes âgées, on croit que c'est la canicule. Faux. C'est la déclaration d'impôt en ligne. La procédure de réalisation de mot de passe, oh, ça a donné des coups de chaud franchement foudroyants. Quoi. Chantal, on a mis quel mail pour les impôts, la réinitialisation de... Ah oui, c'est difficile à dire. Il est où, le carnet avec les mots de passe? Oui, je l'avais mis dans la commode que t'as amenée aux encombrants. Eh ben super, on a les mots de passe aux encombrants maintenant, voilà. Et dites-vous qu'on a même des hôpitaux qui se font pirater leurs données. Pas cool. On avait dit de pas tirer sur les ambulances. Oh, mais c'est vrai, les pauvres, ils ont à peine des lits. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient un firewall? Déjà, firewall. On a perdu des gens, bah oui. C'est tellement compliqué dans les hôpitaux que les directeurs du service informatique... Bah c'est le service informatique. Donc c'est pas la Deep Tech, c'est la S-Tech, tu vois. Donc si jamais la Deep Tech, vous avez peut-être un petit peu de bande passante. Exemple sur un 5 à 7. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous aider à colmater la fracture numérique? Parce que parfois, ça fait mal au bras. Hein. Alors, je sais que c'est important, les technologies en rupture. Moi, c'est vrai que je préfère les réconciliations. Donc, allez, on choose la France. On met son petit pins de coque rouge sur la chemise. Et puis, on me met un fichu bouton de recherche sur le site des impôts. Merde. Merci, s'il vous plaît. Voilà, bon week-end.
Merci, Lucie Carbone. Et vous me rappelez d'ailleurs qu'il faut s'occuper de ce truc des impôts. Oui, vous voulez tout le temps, j'ai encore oublié.
Cyril a tout fait.
Non, Cyril a déjà tout fait. Il est très prévoyant.
Il y était.
On vous retrouve très bientôt, Lucie, dans Zoom Zoom Zen. Merci, Arnaud de la Tour, de nous avoir permis de comprendre la Deep Tech. Je rappelle que vous êtes le PDG et cofondateur de Hello Tomorrow, qui regroupe près de plus de 10 000 startups. Et c'est pas une blague, il y en a vraiment plus de 10 000. Vous devez pas rouler en Twingo, vous, à mon avis, mon coach. Merci à tous, Manon, Cyril, Quentin. Je vous laisse vous rapprocher d'Arnaud pour lui expliquer plus en détail. Oui, mais chut, peut-être.
Non, lui n'est pas hors champ.
Vous pouvez, taisez-vous. Peut-être vous pouvez lui soumettre les croquis du projet Lucy Gallo, qui vous permettra de rouler vous-même dans un véhicule qualitatif un jour.
J'ai les dessins. Voilà,
très bien.
Ils sont sur plan.
Elles sautent de joie en régie parce qu'elles savent qu'elles seront les premières à recevoir un mug qui fait le bruit des cigales. Merci à Amel Caldi, Fanny Léonore Crouzet et Sybille Bulou. À la technique, c'était Enzo d'Hospital, à la réalisation Ghislain Fontana. Demain, vous avez rendez-vous avec nous, version mieux, c'est-à-dire en best-of. Et on se retrouve en direct lundi avec une star du stand-up pour zoomer sur la rampe de lancement des humoristes aujourd'hui, l'Open Mic. Et d'ici là, évidemment, excellent week-end à l'écoute d'Inter.
Et Zoom Zoom Zen en podcast, c'est quand vous voulez sur l'appli Radio France. Dans un instant, juste après les infos, la playlist Sound System de France Inter.
J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. CDI de 8h à 8h. Semaine de 48h. Je n'étais qu'un gosse, un rêveur. Ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter. Je traînais dans les DM de combien de ces belles sirènes que j'invitais à mes clips moi-même. N'oublie jamais ta mission pour un peu d'amour, un peu d'attention. Surtout si tu ne vis pas encore du son ou de ta passion. Donne-toi les moyens de tes ambitions. Prends soin de toi. Trouve un job, arrondis tes fins de mois. Assume-toi, c'est le premier pas. Assure-toi bien de l'amour des gosses, du respect des anciens. Jeunes souvent mangent bien. Garde la tête haute même quand t'es en chien. Et quand tu montes, n'oublie personne en chemin. je sais que d'avoir ta mère contre toi, c'est plus dur que d'avoir le monde contre toi. Mais j'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes. J'aimerais que tu restes en vie. 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 J'aimerais que tu restes.